On connaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec aujourd'hui Sophie Moreno et Patrick Henry à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayastaraï qui réalise l'émission. Alors, une petite humeur inspirée d'un rapport publié par le Bureau international du travail cette semaine sur le thème « Donner une augmentation à quelqu'un qui touche déjà 190 fois le SMIC, c'est pas bon pour la croissance, car comment voulez-vous consommer plus quand on a déjà tout ?» Dis-moi, Pierre-Edouard, pour tes 20 ans, que tirais-tu d'un nouvel hélicoptère ? Mais papa, je n'ai pas encore étrenné celui de l'année dernière. Ah, suis-je bête ? Une pensée donc pour nos amis millionnaires tenait à commencer par les heureux gagnants de la concession de l'autoroute Pau-Langon, cet aspirateur à camion qui vient être inauguré cette semaine et qui devrait clouer le bec une bonne fois pour toutes au tenant du ferroutage. Non mais sans blague. Alors qu'en fait, si vous voulez, pour le salarié moyen, vous augmentez, on va dire, le SMIC au 1er janvier et vous pouvez être sûr que les 17 euros seront investis aussitôt à l'hypermarché du coin ou la facture d'électricité, de gaz qui va continuer d'augmenter. Conclusion, si vous êtes consumption victim, vous qui souhaitez faire un geste pour la planète et diminuer votre empreinte écologique, eh bien pour Noël, vous adoptez un patron du CAC 40. Oui, vous lui versez 15 euros par mois. Lui ne verra pas la différence, mais vous avez au passage évité de craquer pour le dernier tapis puzzle à la mode, assaisonné au formaldéhyde, avec une durée de vie de 6 mois et recyclabilité zéro. Voilà, quand on vous disait que sauver la planète, c'était pas bien difficile. Bon, je plaisante, bien sûr. Pour ce qui est des ours blancs, en revanche, c'est pas forcément gagné. La faute à qui ? Eh bien, à quelques mâles grizzly, très entreprenants, récemment surpris en flagrant délit d'adultère avec des ours polaires. Oui, leurs descendants marron et blanc risquent d'y laisser leur couche de graisse homologuée par moins 50 degrés. Sans oublier l'autre spécialité génétique des ours blancs, à savoir le 100 km nage libre en grand bassin au milieu des icebergs. Alors oui, je sais, il paraît que ces champions-là sont dopés, non pas aux anabolisants, eux, mais aux PCB. Une bonne nouvelle en revanche pour l'ami Ursus Maritimus, les géophysiciens réunis cette semaine à San Francisco, nous explique que la banquise d'été, dont la superficie diminue allègrement de quelques dizaines de milliers de kilomètres par an, ne devrait pas totalement disparaître avant le siècle prochain. Les ours blancs pourront donc se réfugier dans ce qui restera de banquise au large de l'Alaska et peut-être même se faire embaucher pour la prochaine campagne d'éco-blanchiment de la compagnie pétrolière Total qui nous prépare une série de forages dans la région. Espérons que nos amis plantigrades seront grassement payés.
L'actu de CO2, mon amour.
Et oui, une petite actu de la semaine, on va parler du sel. C'est notre grande série Passe-moi le sel. On sait que c'est pas très bon pour l'organisme, loin de là, surtout quand on a de l'hypertension. Mais c'est pas non plus forcément bon pour la nature. Jean-Stéphane Devise, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des programmes de conservation du WWF, donc nous sommes en pleine période de sel aujourd'hui. On en déverse à peu près, bon, suivant les années, on va dire 1 million de tonnes qui sont utilisées en France, qu'ils proviennent de mines de chez nous, en Meurthe-et-Moselle, du Maroc, d'Égypte, de Grande-Bretagne, de Pologne. Bon, il y a un coût déjà un peu écologique, un peu différent, mais quel est l'impact, s'il vous plaît, donc sur les animaux, sur la végétation, parce que ça, on en parle quand même relativement peu.
Oui. En fait, les Américains du Nord en parlent beaucoup plus que nous. Au Canada, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on considère que le sel des fondants routiers, c'est leur nom, est une menace, est un apport polluant de plus dans des milieux qui en sont justement dépourvus. Et ça peut causer, dans certaines régions en tout cas, ça montre, c'est une cause de dégradation des populations, par exemple de salmonidés, et également d'amphibiens. Et c'est un peu curieux, on va dire, mais les amphibiens, l'hiver, ils hibernent, ils sont profonds. Eh ben oui, mais le sel imprègne la vase progressivement. Et donc, ça peut avoir un impact assez fort.
Alors, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger où on essaye de s'y prendre différemment ? Parce que si on utilise le sel, c'est parce que c'est quand même tout à fait utile. Est-ce qu'il y a des alternatives ?
Oui, alors il faut faut dire déjà que ça fait quelques années que les pouvoirs publics ont commencé à se rendre compte de la situation, et on va dire qu'ils suivent effectivement ce qui se fait en Scandinavie ou également en Amérique du Nord. La première alternative, c'est évidemment de diminuer les quantités de sel répandues. Alors soit en ne salant que les endroits les plus accidentogènes, typiquement des virages, hein, des endroits des carrefours, et puis surtout, pendant très longtemps, on se contentait d'épandre du sel en grains. Mais il s'avère que le sel en grain fait assez mal fondre la neige. Et il vaut mieux donc épandre le sel en ce qu'on appelle en bouillie de sel. Ça veut dire un sel mélangé à l'eau, porté à saturation. Et à ce moment-là, on peut diviser par deux les quantités de sel répandues déjà.
Alors on voit des villes comme Annemasse qui ont un peu pris, je veux dire, le sel par les cornes, parce qu'ils ont lancé donc un débat sur ce thème. Qu'est-ce que l'on constate à l'étranger aujourd'hui? Comment on fait?
Déjà, il faut voir que dans les pays froids, on sale très peu. Tout simplement parce que les gens sont habitués à rouler sur neige, et puis parce qu'on fait attention. Ce qu'on pourrait dire également, c'est que dans beaucoup d'endroits, on ne sale pas, mais on sable. Alors, sabler, c'est bien parce que ça évite du sel, en même temps, ça fait pas fondre la neige. Bon, on va dire que, après, toutes les autres alternatives qui existent sont soit embryonnaires, il y a des gens qui ont travaillé sur le glycol ou je ne sais quoi, mais à ce moment-là, le risque, c'est une pollution supérieure, ou bien avec d'autres sels, hein, des chlorures de magnésium, de calcium, mais alors qui sont quasiment considérés comme des écotoxiques.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est là, aujourd'hui, ce qu'on a de mieux, ce serait donc de bien l'épandre au bon moment, et puis d'utiliser davantage cette bouillie de sel.
Voilà, et de sécuriser les stockages. Un stockage de sel, un tas de sel au bord de la route, des fois qu'il neige ou des fois qu'il y a du verglas, évidemment, à chaque fois qu'il y aura une pluie, eh bien, une partie du sel dégagera au cours d'eau en contrebas. Et donc ça, il faut sécuriser les stockages.
De ce que vous observez, est-ce qu'on a un peu tendance à un peu être excité de la salière aujourd'hui ou...
Bon, disons que non, parce que ça a un coût. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, enfin, on estime que le salage des routes coûte à peu près 100 millions d'euros. Mmh. Et évidemment, d'autant plus que le département est fortement enneigé. Et donc, rien que cet aspect-là, conduit généralement les gestionnaires de réseau à essayer de mettre la pédale douce sur le salage trop fort.
Et puis, comme on spécule surtout dans ce merveilleux monde, eh bien, on a vu aussi que la tonne de sel est pratiquement a été doublée en très très peu de temps. Donc là aussi, ça peut donner des idées de modération. Mais écoutez, un grand merci à vous, Jean-Séphane Devis, pour ce petit point donc, d'actualité. On vous retrouvera pour d'autres sujets. Et puis on va dans quelques instants parler de notre dossier, donc regard sur la ville durable. Qu'est-ce qu'une ville durable? On va parler du métabolisme de ces villes. Et puis on va faire aussi un petit tour en Europe avec différents exemples en compagnie d'Alain Mogard et de Frédéric Denry.
His name will always be recorded in history. His name would always be recorded in history. It gives me inspiration to sing his heroic stand in the Philippines. No man can be braver than General MacArthur, the son of America. Traditional warrior at his side, he gave the Japanese a first surprise. For when they called on him to surrender, "I am an American," was his answer. "And in the name of democracy, I will die for freedom and liberty." They don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Past history, good thing George Washington and General Lee, even Hale and Patrick Henry, Abe Lincoln emancipating slavery. But we'll read of MacArthur when he's gone, for he's a genius if one was ever born. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Thank you. characteristic song from the book of editions that lasts so long. This vocabulary that is listing me is owing to my high class propensity. I am not versed in psychology, I'm a man who can sing intelligently. I said I come no braver than General MacArthur, the son of America. With the stars and stripes playing at his side, for this flag he intend to die. MacArthur, the man with the heart of steel, to the invading Japs he would have never yield. He told the Japanese for a fact, I'm leaving Corregidor, but I'm coming back. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America.
Ah bah c'est très bien ça, hein. C.W. Stone King, choisi par Muriel Pérez, et puis aussi notre camarade Didier Varro, on a parlé l'autre jour, ils en avaient plus que deux à la FNAC, je faisais tout, paf, il n'y avait plus rien, enfin voilà. Non, c'est très bien ça, Brave Son of America. Voilà aussi, petite nouveauté de France Inter, ce qui n'est pas une nouveauté, ce sont les villes, bien évidemment, mais le regard sur la ville durable, oui, on peut dire qu'on commence à mouliner ce thème-là depuis déjà un certain temps. Et pour en parler, Alain Mogard qui est avec nous, qui est l'ancien directeur du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui a été directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, ancien directeur à la construction, à l'habitat au ministère de l'Équipement, sensibilité quand même environnementale aujourd'hui, donc assez affirmée. Et j'ai presque envie de vous lancer à la Mogard en vous demandant ce que le Grenelle a fait, parce qu'on a le sentiment en fait que la question du bâtiment est arrivée assez mûre au Grenelle, mais alors celle de la ville, on n'a pas entendu grand-chose.
Le diagnostic est bon. C'est-à-dire que le bâtiment est arrivé au Grenelle et les associations le reconnaissent très mûr et ayant proposé des solutions. Au lieu d'être un embêtement, si je puis dire, un obstacle à l'environnement, il est devenu une solution à l'environnement. Je rappelle 0% de consommation d'énergie, mais mon produit de l'énergie est zéro effet de serre. Quoi. Ouais. C'est le seul secteur qui est arrivé à l'environnement avec ça. Et les transports avaient des solutions. Et la ville est arrivée qu'à la fin, il faut dire. Et pourtant, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, on a un Grenelle qui a franchi, de mon point de vue, les premières étapes, en tout cas dans le bâtiment. Il faut le dire, parce qu'il faut être honnête, il est dans le fit. On est même plus en avance, je le dis ici, parce que c'est quand même une nouvelle très importante. Pour la construction neuve, ça va plus vite que ce qu'on avait prévu. Mais revenons à la ville. La question de la ville reste entière.
Alors 50% de la population mondiale aujourd'hui vit en ville, 75% de la population européenne. Nos villes émettent un tiers des gaz à effet de serre, consomment les trois quarts de l'énergie globale. Donc elles sont gloutonnes, elles sont aussi avaleuses de terres agricoles. Elles s'étalent avec d'ailleurs une laideur assez opiniâtre aujourd'hui, et le tout gouverné par le prix du foncier. Donc on sait que ce n'est pas complètement tenable. Le problème, vous le dites très bien dans cet ouvrage que vous avez écrit aux éditions du CSTB, que vous avez écrit avec Jean-Pierre Cuisinier, regard sur la ville durable. Vous dites le problème est l'adaptation de la civilisation urbaine à la réalité d'un seul lieu qui est quand même la terre. Alors Alain Mogard, comment permettre aux habitants, on va dire, de concilier un mode de vie durable avec donc une vie moderne, mobile et urbaine?
Oui, alors ça c'est la conclusion du livre, mais autant partir de la conclusion, c'est-à-dire que la question, mon point de vue tout à fait essentiel, primordial à l'heure actuelle, c'est comment on peut garder une civilisation urbaine, c'est-à-dire que de mon point de vue, sans faire le retour à la terre, à la caverne, c'est-à-dire la civilisation, excusez-moi, c'est un raccourci, on peut en discuter, mais je pense que la civilisation est liée de la ville. Donc comment on peut garder une civilisation compatible avec les contraintes de la planète? Et donc, comme vous venez de le dire, on l'a un peu regardé, on ne se trompe pas. Il y a incompatibilité à l'heure actuelle avec le rythme de consommation d'énergie, de capacité, si je puis dire, à faire de l'effet de serre de la ville et les ressources de la planète. Alors donc, la question est très simple. Ou bien on abandonne la civilisation urbaine. Et à mon avis, c'est pas possible. Je vois pas comment, qui peut aller prétendre qu'il faut l'abandonner. Ou bien alors, l'autre partie de l'alternative, on remet sur le droit chemin la civilisation urbaine. C'est-à-dire, le droit chemin, c'est qu'elle soit, elle est une façon de vivre, une façon de vivre la ville qui est compatible avec la planète.
Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, on peut se dire on va modifier la morphologie des villes, la configuration externe. Bon, on sait que c'est très lent. C'est au moins une génération au minimum. Et vous nous rappelez une chose, c'est que d'abord, bon, on y vit dans ces villes, c'est bien sûr. Là, j'enfonce une porte d'entrée de ville ouverte. Mais il y a aussi le métabolisme. Le métabolisme, c'est la façon de faire vivre la ville. Alors racontez-nous, parce que là, vous dites qu'on a quand même un levier qui est plus important et beaucoup plus rapide.
Oui, c'est sans doute... Quand on défend des idées, il y a des idées qui sont un peu plus neuves. Bon, moi, j'ai fréquenté sans arrêt les urbanistes. Et la première tendance, c'est de dire, ah oui, voilà, vous avez raison, la question de la ville, zéro énergie, on va y revenir, qui a une forme d'autonomie, etc. On va dessiner une nouvelle ville. Voilà. On va vous faire la ville du 21e siècle. Et ça, je pense que c'est l'utopie urbanistique. En fait, on va découvrir, et c'est évident, que nos villes actuelles et celles qui ont été historiquement construites avec le temps, avec la culture, avec les différentes couches de civilisation, par exemple celle du Moyen-Âge, celle de la Renaissance, celle de l'époque classique, celle de la première partie du 19e, sont tout à fait compatibles avec un métabolisme, c'est-à-dire un fonctionnement de la ville qui est éco-compatible, c'est-à-dire qui ne fasse pas d'empreinte écologique au-delà du raisonnable. Donc, en étant un peu provocateur, la question de la forme est peut-être moins importante que la question du fonctionnement de la ville. Mmh. Et c'est ça l'idée du métabolisme, c'est-à-dire intéressons-nous à la façon dont vit la ville, qu'est-ce qu'elle prend comme ressources, en énergie, en eau, en air pur, en ressources non renouvelables ou en ressources renouvelables, et puis regardons ce qu'elle rejette. Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle ne fait que consommer? Son empreinte écologique, on pourrait la mesurer. Est-ce qu'elle est raisonnable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est compatible avec les ressources de la planète? C'est ça, le métabolisme. Voilà. Alors, si on découvre qu'on ne peut... Travailler sur le métabolisme est insuffisant. Il faudra travailler aussi sur la forme de la ville. OK, on travaillera sur la forme de la ville. Mais on peut travailler tout de suite sur le métabolisme de la ville.
Alors, je vais me tourner maintenant vers Frédéric Doré, qui est aussi notre autre invité, donc, qui est un homme aussi de l'environnement, qui a écrit l'Atlas du réchauffement climatique, la nature, combien ça coûte, et quelle France aussi en 2030. Et alors là, c'est intéressant parce que vous prenez le risque de la prospective, vous étiez déjà venu dans cette émission pour développer d'autres thèmes. Est-ce que c'est en fait nouveau, si on doit se plonger, je sais pas, au 18e ou 19e siècle?
Non, bonjour Denis. Non, ça n'a rien de nouveau du tout. La réflexion sur une ville vivable, vivante, humaine, elle date de la fin du 19e, début du 20e. Il y a un type qu'on connaît peu en France qui s'appelle Émile Van der Velde, qui fut ministre socialiste belge, qui fut également sociologue et qui a inventé, comment dirais-je, tout ce dont on parle maintenant. C'est-à-dire une ville donc à la fois plus vivante avec un peu de nature et puis entourée par des villages un peu autonomisés avec des gens contents d'être là, d'y travailler, de s'y nourrir et d'aller par des moyens de transport en commun à la ville pour se cultiver. Donc c'est une idée qui a accouché des cités-jardins et des cités ouvrières. Et puis le métabolisme aussi puise ses racines dans l'écologie fondamentale, dans la théorie de Serge Oudoum notamment, qui est un des pères de l'écologie. Voilà, on en revient finalement un peu aux fondamentaux.
L'idée c'était quoi? C'est que le bien-être devait être sur place, qu'on allait pouvoir se déplacer.
C'est ça.
Se nourrir, vivre aussi sans avoir besoin de faire des...
On considérait à l'époque que la ville était aliénante pour l'homme si elle obligeait l'homme à enfiler les kilomètres pour aller travailler, pour aller se nourrir, pour aller au théâtre. Voilà. Et ce concept a été totalement compris par les industriels du nord de la Belgique, hein, les cités adossées aux carreaux de mine. Alors, c'était une structure finalement très médiévale. On avait une usine forteresse avec son village autour, mais tout y était organisé pour que les gens, les ouvriers, n'aient strictement rien à faire d'autre, en tout cas à l'extérieur de cette espèce d'enceinte qui était le coron, la cité-jardin, la cité ouvrière. Alors même si ça répondait évidemment à un assujettissement de la force de travail au patronat, mais voilà, c'est une utopie qu'on peut aussi voir par exemple à Guise avec le familistère de Gaudin, et on redécouvre cette utopie.
À la Mogar.
Oui, je souris là, si on pouvait le voir. parce que c'est vraiment, c'est d'utopie, vous avez raison, vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'il y a eu dans une partie du 19e, une utopie d'un progrès social, etc. Et donc, je pense qu'il faut le voir en face. Cette utopie, elle a été balayée par certains, même elle a donné un régime qui a fait des erreurs et donc qui a explosé en vol, hein, qui est le communisme, c'est pas à peine de tourner autour du pot. Oui. Mais il n'empêche qu'en ce moment, il nous manque d'une utopie. Alors c'est pour ça que moi je trouve, quand vous avez dit la présentation que j'étais un traditionnel qui avait basculé sur l'environnement, mais pourquoi traditionnel des ponts, je peux le dire, je m'en fous, ça ne me gêne pas. C'est parce que c'est la vraie question, la nouvelle utopie. Qu'est-ce qui va pouvoir être capable de construire maintenant une société qu'on partage tous ensemble parce qu'on est citoyens du monde, c'est évidemment l'utopie environnementale. C'est pas une utopie d'ailleurs. Enfin, ça me plaît, utopie. Donc, pour moi, c'est, et je suis d'accord, c'est tout à fait maintenant. Il faut que nous reconstruisions des projets d'utopie à partager ensemble. Alors, sans doute, la question, c'est d'en avoir envie. C'est le désir d'utopie. Oui. C'est pas que nous disions chaque fois dans l'environnement, c'est la catastrophe, vous allez voir, on va, entre guillemets, vous punir de votre péché environnemental.
C'est insupportable, ça.
Voilà. Oui. Moi, je pense que la grande question, je le dis à des vrais, à des historiques environnementaux, la question, c'est pas que ça devienne une sorte de punition parce qu'on a fait des bêtises, mais que ça devienne un désir de changer et d'être acteur de son changement.
Alors, on va aller justement vers le désir, on va aller en Suède. On va retrouver donc une femme que j'ai enregistrée hier, qui est ma confrère, qui est Ruth Stegazy, que l'on retrouve tous les samedis matins de 7h à 8h sur France Culture avec son excellente émission Terre à Terre, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les pionniers de la ville durable » avec Syria Emelianov. Donc, elle a des témoignages très intéressants. Et on va partir donc à Malmö. On se trouve donc en face de Copenhague. Donc, c'est une ville ouvrière de 290 000 habitants. Et qui, dans les années 80, fin années 80, a subi une crise absolument majeure avec la délocalisation de chantiers navals qui sont partis en Corée du Sud. Alors, qu'est-ce que l'on a fait, en fait, pour convertir cette ville au développement durable, qui n'est pas un développement durable.com, et pour changer son fonctionnement, Ruth Stegazy?
Eh bien, tout l'intérêt de Malmö, c'est qu'ils ont su rebondir, justement, sur cette crise. C'est parce qu'il y a eu cette crise, c'est parce qu'il y a eu la fermeture des chantiers navals, il y a eu une population qui, tout à coup, s'est retrouvée massivement au chômage. En même temps, un afflux d'immigration très fort, puisque c'était l'ouverture des anciens pays de l'Est, avec des flots qui arrivaient d'ex-Europe de l'Est et qui venaient par Malmö, justement, et qui venaient s'installer en Suède. Et la ville s'est trouvée dans une impasse économique. Et il se trouve que la municipalité de l'époque a fait le pari du développement durable comme ce qui allait pouvoir les sortir de cette crise. Et de fait, c'est ce qu'ils ont prouvé. Ils l'ont prouvé de multiples manières, mais on peut peut-être s'intéresser plus particulièrement à deux cas. La très belle vitrine de Vestrahamnen. Vestrahamnen, c'est ce front de mer extraordinairement beau, juste en face de Copenhague. Sur votre gauche, vous avez le pont qui traverse l'estuaire. Et puis vous avez, vous savez, cette forêt d'éoliennes qu'on voit sur toutes les photos, des éoliennes offshore qui sont si jolies. C'est là. Et sur le front de mer, la ville de Malmö a construit le quartier qui était une espèce de démonstration de tout ce qu'on pouvait faire de plus beau et de plus intéressant sur le plan écologique. Donc, des très beaux matériaux, une très très belle architecture, des choses tout à fait audacieuses, puisque vous avez cette tour de 180 mètres de haut qui pivote sur elle-même, qui est tout à fait magnifique.
Et qui est vraiment en tête, en couverture de votre livre, on le rappelle, Les pionniers de la ville durable.
Voilà, on l'a choisie parce qu'elle est vraiment très spectaculaire. Et puis, en même temps, un quartier qui est totalement autonome sur le plan de la production des énergies renouvelables dont il a besoin, sur le plan de la gestion de ses eaux et sur le plan même de la fabrication de biogaz qui sert à alimenter les cuisinières des appartements, etc. Donc, quelque chose de tout à fait beau et réussi. Mais dans le même temps, à l'autre bout de la ville, vous aviez l'ancien quartier de HLM qui avait été un très joli quartier de HLM construit après-guerre, très bien, mais qui s'était totalement délabré et qui a été restauré, alors là pour le coup, complètement avec la participation des habitants. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme qui a été mis en place pour que cette restauration écologique se fasse en concertation avec les gens du CRU. Et c'est une personne, Trevor Graham, qui a été chargé de faire ça et qui a passé des mois et des mois à discuter avec les mamies sur les bancs, à jouer au foot avec les gamins, à repérer qui étaient les personnes intéressantes dans le quartier. Et grâce à ça, il a réussi à créer un climat non seulement de confiance, mais de réflexion profonde menée par tous les gens qui savaient, eux, très précisément de quoi ils avaient besoin. C'est eux qui ont parlé, par exemple, de l'eau et de la gestion de l'eau. Il y avait toujours des inondations, il y avait toujours de l'eau qui arrivait à mi-cheville l'hiver, ce qui était très désagréable. Et ils ont raconté que chez eux, quelqu'un dans une cave faisait des expériences avec l'eau. C'était un type un peu bizarre. Donc Trevor est allé le voir et il est tombé sur quelqu'un qui avait des idées tout à fait intéressantes sur comment utiliser les mouvements de l'eau. Mmh. Il l'a mis en contact avec les services municipaux, les services techniques de la ville, qui ont trouvé les idées excellentes. Et le système de gestion des eaux pluviales dans ce quartier de Augustenborg, c'est celui de cet homme qui faisait ses petites expériences tout seul dans sa cave.
Alors, implication véritablement des habitants, et puis on a aussi changé donc, certaines façons de penser et d'agir. Opération de sensibilisation très importante sur les trajets ridiculement courts, comme vous dites.
Ah, c'est pas nous qui le disons, c'était les affiches qui plaisantaient sur la chose. Il y a eu toute une campagne d'affichage qui riait, c'est-à-dire qu'on ne disait pas aux gens « c'est mal, attention, vous ne devriez pas prendre votre voiture ». On disait « vous avez vu ?» Il a pris sa voiture alors qu'il avait vraiment 300 mètres à faire. Eh bien, ça a marché. Les gens prennent beaucoup moins leur voiture. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut pour ça aider en faisant des pistes cyclables. C'est-à-dire que, si vous voulez, à chaque fois que vous essayez d'inciter la population à faire quelque chose, il faut en même temps lui mettre à disposition
autre chose.
Mais quand vous faites les deux, ben, on voit qu'il y a des résultats tout à fait intéressants.
Alors, ce qui est intéressant aussi en Suède, on le sait, c'est que culturellement, quand on parle de développement durable, on ne sourit pas. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment des gens depuis une vingtaine d'années facilement.
Alors, ce qui est très difficile à comprendre pour nous, c'est que ça fait l'objet d'un consensus total. Tout parti politique confondu. Alors, nous, on a été un peu étonnés avec Cyria Emelianov quand on est arrivé là-bas. Alors, on leur disait, mais alors, comment vous distinguez-vous entre vous? Comment savez-vous qui est de gauche, qui est de droite, qui est écolo? Et quelqu'un nous a dit, ah bah par exemple, le nucléaire. On est écolo de droite, on est pour le nucléaire. On est écolo de gauche, on est contre le nucléaire. Voilà, ce sont des lignes de partage qui sont totalement différentes des nôtres. Mais en tout cas...
Je veux dire, on les retrouve aussi chez nous, cela.
On peut les retrouver, mais si vous voulez, ça ne fait pas partie des lignes de clivage entre les partis politiques. Là-bas, vous avez un accord immédiat, massif et évident sur oui, il faut passer au développement durable, oui, il faut passer à l'écologie.
Alors, Anna Moguer et Frédéric Danhé, petite réaction.
Ah, écoutez, voilà, et tous les mots essentiels ont été prononcés à travers ce grand quartier, ce grand projet. Moi, j'ai repéré les mots d'autonomie, la notion d'évolution des modes de vie. Je pense qu'on est vraiment au cœur de... Et puis cette idée d'adhésion me paraît très très intéressante parce que, puisqu'il s'agit d'une transformation, on était resté sur l'utopie, sur le désir de changement. Un désir, une utopie se fait avec une adhésion. Et donc là, je pense que si on est optimiste, moi je le suis, il y a un moment privilégié de l'évolution de la société dans laquelle, si nous sommes capables de prendre appui sur les initiatives spontanées d'imagination, d'innovation sociale, on peut accélérer le changement.
Frédéric Danhé.
Oui, social, c'est l'adjectif qui convient. Moi, ce qui me touche, et dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a consulté les gens. Voilà, on est allé voir ce dont les gens avaient besoin, où ils allaient. Comment ils vivaient. De la même façon qu'un architecte, en principe, son boulot, c'est de voir comment les gens se déplacent au sein d'une maison quand il y a une rénovation. Un urbaniste devrait regarder, en principe, comment les gens se déplacent dans la ville et pourquoi les gens vont là et pas ailleurs. Et si on faisait ça un peu plus souvent, dès qu'on parle de transport, on s'apercevrait que voilà, il y a peut-être des choses qui sont pas conçues forcément pour les gens, mais avant tout sur les bureaux d'études. Voilà. Donc, penser la ville de demain, c'est aussi penser aux gens dans leur vie de tous les jours. Et parce qu'une ville sans social, c'est une ville désincarnée, c'est un projet, pardonnez-moi cher ami, des ponts et chaussées, qui n'est pas forcément vivant. Il suffit de regarder le Grand Paris, manifestement, ces braves gens n'ont pas pris le RER.
Bon, d'accord, et ben voilà, c'est fait. Donc on va poursuivre donc, notre voyage avec vous dans ces villes, et ça va être d'abord avec Françoise Hardy. C'est une urbaine aussi, même si elle est en Corse.
C'est au de mon amour. Denis Chessou.
Noir sur blanc, j'écris mes mots, les nerfs à cran, sans garde-fou ni faux, sans blanc, de but en blanc, trop souvent. Qu'il n'est pas trop tard pour sortir de ma tour. Dis- vous passez sans me voir. La peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Tant pis pour tous les non-dits, les appels au secours. Lancé dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à votre cou je peux me pendre haut et court, nous nous laisserons en blanc les sujets. Partir en courant, seul point noir, si vous n'aimez pas les regards qui vous transpercent de part en part, vais-je passer.
Nous aimons beaucoup. Toujours en direct sur France Inter, nous parlons aujourd'hui donc des villes durables. Regard sur la ville durable avec Anna Mogar. Quelle France en 2030 avec Frédéric Danhé. Revenons quand même sur cette notion de métabolisme, parce que là, ça nous concerne directement. Donnez-nous des exemples, c'est-à-dire s'intéresser au métabolisme, les entrées, les sorties, les flux d'une ville, quelle énergie va rentrer, quelle énergie va sortir, comment sûrement on peut s'alimenter, comment on se déplace. Imaginons donc le corps humain, bah oui, effectivement, il y a des interactions. Et ça, on ne les a pas forcément très bien encore défini. Alors, que faut-il faire pour agir sur la transformation de nos modes de vie? Parce que derrière cela, c'est quand même le cœur de l'affaire, Alain Mogar.
Oui, alors, on a déjà franchi, si je puis dire, un progrès méthodologique en parlant métabolisme. Parce que déjà, ça veut dire qu'on a compris que la ville était un corps vivant, finalement, puisqu'on emploie une métaphore du corps vivant. Et c'est vrai. On a longtemps opposé le béton, le mur, la matière à la ville et la vie étant la nature. Non, il faut comprendre qu'une ville, ça vit, c'est aussi vivant, ça a aussi un écosystème. Ça, l'équilibre écologique de la ville est aussi essentiel que l'équilibre écologique de la nature. Non, je dis ça dans une émission qui est très axée sur, Denis, c'est gentil ce que je dis, sur la nature, mais je trouve qu'il faut parler de la ville. C'est aussi un système vivant. Alors déjà, c'est un système vivant. Alors regardons, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme quoi? De l'énergie, il consomme des ressources naturelles, il consomme des aliments pour faire vivre et manger ses habitants. Et tout ça, ça ressort quoi? En déchets, ça ressort en air plus pollué qu'avant, ça ressort en CO2 dégagé par la consommation de l'énergie, en tout cas certaines énergies, etc. Et c'est ça le métabolisme. On regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort. Alors, à ce moment-là, on va se demander, la question d'après, c'est « Mais pour faire fonctionner cet être vivant qui est la ville, est-ce que cet être vivant, il dépend de qui? Qu'est-ce qu'il produit lui-même? Puisqu'il consomme, mais est-ce que c'est des biens de production? Il consomme des produits qu'il a fabriqués, en tout cas, tout près de dans la ville ou à côté de la ville. Est-ce qu'il était autosuffisant?
Ou bien à 10 000 kilomètres, oui.
Hein, voilà. Tout d'un coup, on se dit « Mais il dépend de qui ?» Et alors là, on s'aperçoit que la dérive par rapport à la fin du 19e, puisqu'on avait laissé à la fin du 19e, est terrible. La dérive des villes, ça a été une dérive qui consiste à ce que, sur la question énergétique, la ville est de plus en plus consommatrice d'énergie. Sur l'eau, elle est de plus en plus consommatrice d'eau. Elle est alimentairement, elle n'a plus un tout petit peu d'autosuffisance. Elle est dépendante de tout. Et donc, en fait, on s'aperçoit, et c'est lié à la mondialisation. Il faut bien comprendre que c'est le même phénomène. La mondialisation, sous prétexte, et ce qui est vrai, qu'il vaut mieux produire à l'endroit où c'est l'optimum de production, a laissé entendre qu'on pouvait transporter tous les biens sur toute la planète.
Avec une énergie pas chère.
Voilà, avec une énergie pas chère, sans sanction d'effets externes CO2, d'effets de serre. Et donc, des villes qui étaient en partie autosuffisantes, en partie qui dépensaient pas trop d'énergie, où il y avait des transports de courte distance et tout, tout ça s'est dilué, elle s'est étalée, elle n'a fait que être énergivore, elle prend des aliments qui viennent d'ailleurs, de 1000 km, de 2000, qui traversent la planète, etc. Alors, la question du métabolisme, c'est deux questions de métabolisme. La première, c'est: comment je peux avoir un métabolisme plus sobre, c'est-à-dire moins consommé en quantité, pour être toujours vivant? D'ailleurs, si je prends une comparaison avec les êtres vivants, il n'y a pas besoin de devenir obèse. Hein. Les gens peuvent être en forme en ayant quelques quantités, sans consommer beaucoup. Ils sont en parfaite forme, un être vivant qui fonctionne très très bien et qui n'est pas ceux qui en consomment trop, deviennent obèses. Excusez-moi de la comparaison. Et l'autre idée sur le métabolisme, est-ce que ma façon de fonctionner, c'est-à-dire moi la ville, si je puis dire, vous voyez, j'emploie un mot humain, moi la ville, j'ai mes ressources à proximité, ou je les fabrique moi-même, ou bien je les fabrique pas.
Alors là, c'est une clé extrêmement importante aussi, Frédéric Noé, parce que ça nous amène vraiment au couple ville-agriculture. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais l'agriculture, ça va être vraiment le nœud gordien de demain. Quand je dis demain, on y est déjà. Avec le réchauffement climatique, même s'il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus de cette affaire aujourd'hui, peu importe, c'est quand même en train d'évoluer. Cette énergie qui actuellement ne coûtait pas cher du tout, même s'il y a beaucoup de TIPP, peu importe, elle ne coûtait pas cher, ça va s'emballer. On va d'abord être confronté d'ailleurs au prix, avant d'ailleurs effectivement d'être confronté à la rareté. Mais mettez-nous bien en avant le couple ville-agriculture, et puis peut-être aussi de nous donner quelques scénarios qui peuvent être possibles pour la ville de demain.
Oui, alors effectivement, l'agriculture sera le nœud gordien. Pourquoi ? Parce qu'on va demander à l'agriculture de tout faire. Hein. On va lui demander de plus produire pour toujours moins cher, avec des produits toujours plus traçables, avec toujours moins de pollution, en accueillant toujours plus de biodiversité et en assurant les services que nous offre la nature, notamment en assurant, par exemple, un cycle de l'eau normal qui ne s'emballe pas et procure et nous donne des inondations, par exemple. Et tout ça va demander de la place, de la terre. Oui. Or, la surface agricole utile disparaît à vitesse grand V en France, au profit de la périurbanité, c'est-à-dire de ces grandes banlieues. Donc il n'y a pas 36 solutions. On ne peut plus, enfin si on était logique avec nous-mêmes, on ne peut plus empiéter sur la terre agricole. Donc en théorie, l'étalement urbain devrait s'arrêter. Et devrait s'arrêter d'autant plus vite que l'énergie arrive à son coût réel. On commence à voir le coût énergétique d'une ville.
On n'a pas de réglementaire sur le coût du foncier aujourd'hui, sinon ça saurait.
Enfin, bah,
on laisse la machine s'emballer.
On laisse la machine s'emballer, puis ensuite on vient pleurer qu'à Paris on ne peut plus se loger et que les gens sont obligés de faire 40 km pour aller en Ile-de-France trouver une pauvre maison qui est un gouffre énergétique. Bon, alors l'élément dominant, ce sera la place. Donc il y aura un dialogue évident entre l'agriculture et la ville. Et qui va l'emporter finalement, c'est ça qui est en discussion. Donc on peut élaborer plusieurs scénarios. On laisse faire, c'est-à-dire on laisse faire l'étalement urbain, mais ça, c'est pas possible. C'est plus possible simplement pour des raisons de place, pour des raisons de coût énergétique et pour des raisons sociales. Parce que sinon, il faut expliquer aux gens qu'on pousse toujours plus loin comment ils feront pour mettre de l'essence dans leur voiture dès lors que l'essence sera arrivée à un niveau financièrement inacceptable. L'autre solution, c'est on laisse à l'agriculture le soin de tout diriger. L'agriculture intensive, par exemple. Dans ce cas-là, c'est la prime à la surface agricole utile et les villes ne se développent plus que là où c'est encore possible. Là où c'est encore possible, là où ça n'est pas productif pour l'agriculture. Donc, à l'étalement urbain, on rajoute de l'empilement parce que la place est quand même restreinte. Sauf que là, c'est contraint par une autre chose qui est l'interdiction qui va être de plus en plus évidente, présente, permanente, de construire là où on construit maintenant, sur les zones inondables, par exemple. Oui. Voilà, l'État redécouvre que c'est pas bien de ne pas respecter la loi sur les zones inondables, et c'est les assureurs qui sont en train d'appuyer là-dessus fortement. Donc ce deuxième scénario, j'y crois pas trop. Le troisième scénario, c'est la ville n'est plus qu'un rêve, qu'une utopie verte, et donc la ville s'entasse, la ville se redensifie excessivement, se couvre de tours de façon à ce que la consommation énergétique par mètre carré soit la plus faible possible. Mais ça, c'est une ville qui est pensée par des ingénieurs, c'est une ville dont les coûts de fonctionnement sont énormes, qui j'imagine seront pris en charge en grande partie par le privé, parce qu'on peut arriver à une privatisation de la ville, de certains services qu'offre la ville, avec autour des zones concentriques de campagne qui ne seront plus dévolues qu'au bien-être de la ville. Et entre les grandes villes, il n'y aura plus que des déserts.
Bon. Alors, un quatrième scénario un peu plus intelligent, qu'est-ce que ça pourrait être?
Eh ben, c'est un scénario où on en revient finalement à ce qui avait été pensé un peu il y a un siècle, c'est-à-dire que la grande ville, on lui met un peu de biodiversité, on lui met un peu d'écoquartier, et puis surtout on coupe le lien, quand c'est économiquement et sociologiquement possible, on coupe le lien entre la ville et ses banlieues qui pourraient s'autonomiser. Parce qu'il y a suffisamment d'entreprises, il y a suffisamment de production, de loisirs pour que les gens restent là où ils habitent finalement. Donc on fait quelques grandes villes, autour de chaque grande ville des zones de maraîchage pour les alimenter, et puis autour, dans cette périphérie des grandes villes, des villes moyennes qui, elles, se redensifient et qui s'autonomisent d'une certaine façon. Et dans les deux cas, on n'a pas une densification, hein, qui est un rêve d'architecte, mais on a une intensification de la ville.
Mais ce qui est différent.
Ce qui est différent, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qui était le cas de la plupart des villes il y a encore un siècle, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous vous levez et le moment où vous vous couchez, bah, vous êtes passé en marchant par votre lieu de travail, votre lieu de commerce, éventuellement un lieu de loisir. Vous y êtes passé ou en marchant ou avec des transports en commun. C'est ça, intensifier la ville, c'est intensifier l'espace, c'est multiplier les fonctions de la ville sur des distances raisonnables, d'un point de vue énergétique et humain.
Avant de faire un petit tour à Montsartou, Alain Bogard.
Oui, très bien. Enfin, très bien au sens... je prends la suite. Je prends la suite. Ouais. Ce n'est pas qu'on ne veut pas se contredire. Je prends la suite. Je crois que ça entraîne deux, trois conséquences. Premièrement, je dirais à ma façon, on va réinventer les centralités, la proximité avec des centres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un monocentre et une sorte de tache d'huile autour du monocentre, ce n'est pas bon. Il faut ce qu'on appelle en urbanisme de la granulométrie de la densité. Je veux dire, il faut une densité avec des grains. Il y a un gros grain au centre, mais il faut aussi des grains à la périphérie. Et pourquoi il faut des grains? Parce que chaque grain correspond à une proximité de services, une proximité de commerce, une proximité. Et donc, de façon à ce que les gens puissent trouver tout un tas de services en proximité avec déjà un grain, un petit grain qui est leur centralité. Alors, sur l'agriculture, je serais un peu... Il faut quand même qu'on contraste nos points de vue.
Oui.
Je vais partir en contradiction pour... Je suis pas sûr qu'il faille dire qu'il y a concurrence entre les surfaces agricoles et la ville. Je dirais différemment. Je pense qu'il est hors de question d'avoir d'un côté une politique agricole, de l'autre côté une politique urbaine. Il faut qu'il y ait une agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'il faudrait inventer quelque chose où on prononce les mots d'agriculture et d'urbain en même temps. C'est-à-dire, pour faire image, c'est une hérésie. Je vais être un peu provocateur, mais je m'en... C'est comme ça. Une hérésie que d'avoir, avec des terres aussi riches que la Beauce, autour de la région parisienne, des champs de blé monofonctionnels. Je dis que lorsqu'on a une terre aussi riche, aussi près de Paris, il vaut mieux qu'il y ait une agriculture urbaine qu'une agriculture de monoculture. Et donc à ce moment-là, la question est la suivante, c'est que l'agriculture soit au service, si vous permettez, de la ville. L'agriculteur est au service quand même des humains. 80% vit en ville. Alors revenons à l'essentiel. Elle est d'abord au service des urbains. Et je pense que cela plaide, vous l'avez dit, Frédéric l'a dit, pour des zones maraîchères et pour une agriculture de proximité.
Alors ce qui nous donne aussi pas mal envie, c'est l'exemple de Montsartou. On va partir dans les Alpes-Maritimes. Montsartou, c'est quand même un lieu extrêmement urbanisé, 10 000 habitants. Andreas Kiri, une véritable vocation écologique depuis longtemps. 50% de produits bio déjà aujourd'hui dans ses cantines. Et en pensant autonomie alimentaire, Andreas Kiri, qu'est-ce que vous avez fait?
Nous, on est parti des enfants, ça nous paraissait essentiel. Changer les habitudes de nourriture des enfants, et ça a été assez miraculeux. On l'a fait, on a donc acheté une grande propriété qui est aux portes de la ville, à 500 mètres, avec un beau mas provençal dessus qu'on a restauré en partie. Et notre idée est de mettre un vrai cultivateur. La semaine prochaine, on va faire un jury pour choisir le cultivateur qui va s'installer, qui sera payé comme un fonctionnaire, mais qui sera cultivateur. Il donnera la priorité à l'alimentation de notre cuisine, et de nos réfectoires, qui ont la chance d'être encore tous en régime municipal direct. Et on s'est aperçu déjà, on avait déjà commencé en prenant des produits bio et en imposant un peu plus de fruits, un peu plus de légumes, que le goût des enfants changeait. Alors aujourd'hui, on saute le pas. Pourquoi pas donc monter une opération de ce type-là avec un cultivateur qui serait embauché par la commune et qui aurait pour mission de nous fournir des légumes pour la cantine municipale, pour les trois écoles que nous avons. Et déjà, on a des répercussions. On a commencé par planter des patates, oui. 100 kilos, et on en a récolté plus d'une tonne. Alors les petits étaient tout estomaqués de voir que les patates ne poussaient pas dans l'hypermarché, mais bien dans la terre. Oui. Et qu'en cherchant un peu avec les mains, quand on avait passé d'abord le tracteur, on trouvait des patates magnifiques. Et on a fait ça aussi avec les courges. Si vous aviez vu les gosses ramasser les courges, les porter dans leurs bras, les peser et les mettre dans un endroit où elles vont rester au frais pour qu'elles passent une grande partie de l'hiver. Et les parents nous disent aussi, ça c'est assez remarquable, mais depuis que vous faites ça, ils mangent des légumes à la maison, ils nous demandent des soupes de courges.
Oui, bah oui.
C'est gagné, si c'est ça, c'est gagné.
Alors on va rester donc sur l'autonomie alimentaire, sur cette notion de relocalisation, parce que vous avez donc installé, vous, votre cultivateur, André Ascari, vous êtes en train de le faire. On va élargir à la région Provence, parce que vous êtes aussi en charge du foncier, c'est quand même la clé. Le lien entre agriculture, périurbain et foncier, quel est-il ?
Bon, écoutez, là, c'est un autre volet. Pour ce qui est de notre commune, on se trouve dans une zone périurbaine, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire très proche du littoral, très bâti. Et nous avons dans le haut et le moyen pays des espaces très grands sur lesquels on peut le faire. Alors, essayer de trouver la solution pour qu'un particulier qui ne veut plus cultiver sa terre puisse vendre la terre à des jeunes notamment, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent retravailler l'agriculture, mais pas forcément les fils de paysans. Donc on a des jeunes vraiment, vraiment motivés et j'espère qu'on trouvera des solutions. À nous, à la région, de trouver des astuces pour pouvoir financer. Il faut que les communes s'y mettent. Donc elles achètent des terres qui sont des terres en friche où l'agriculture disparaît complètement. Et puis après, elles peuvent le louer à des cultivateurs qu'on mettrait en place et arriver à trouver un équilibre financier qui, jusqu'à présent, n'est pas tellement facile. Alors, on a découvert pendant l'été, j'ai travaillé beaucoup dessus, 4 opérations qui vont de 30 hectares à 130 hectares, où on peut essayer de jouer cette carte qui est nouvelle. Et comme vous l'avez dit, il y a un besoin énorme aujourd'hui de la population, des consommateurs, des parents d'élèves surtout, d'avoir une agriculture de proximité et de qualité. Bon, ce sera du bio quand on peut le faire, mais on n'a pas de problème chez nous pour le bio parce qu'il n'y a pas de gros cultivateurs oui. qui mettent des nitrates ou des pesticides. Donc là, on est assez à l'abri pour les Alpes-Maritimes. On peut faire une petite révolution dans ce domaine-là et ne pas laisser des terrains agricoles inutilisés.
Eh bien, on va poursuivre ce voyage urbain dans quelques instants. Ce sera après Fest. Et fin de la balade, mais pas fin de la balade dans nos villes. On a encore quelques minutes. Petite réaction donc à la Moga, quand on entend Askeri, le maire de Montsartou dans les Alpes-Maritimes, donc se lancer à premier magistrat. Oui, c'est des choix politiques là aussi qui s'opèrent.
Oui, c'est des choix politiques. C'est pas un petit exemple qu'on donne. C'est, à mon avis, ça préfigure ce qui sera l'action générale qu'il faudra entreprendre. Donc là, je voudrais dire un petit mot qui me tient à cœur. Il y en a qui observent tous ces signes nouveaux en se disant « Oh bon, on a notre dose de bobos ou bien de mères un peu qui s'échappent, qui sont un peu différents des autres. » Eh bien, moi, je vais dire mon opinion. Je pense que c'est eux qui ont raison. Je pense que c'est eux qui sont en train de tracer une voie nouvelle. Et donc, en ce moment, il faut bien voir qu'on est à l'orée d'une très grande mutation de la société. Et donc... L'optimiste que je suis pense que tous les ingrédients sont présents d'une prise en main par les habitants de ce nouveau destin. Parce que c'est quoi la question ? La question essentielle, c'est il y en a marre d'entendre que tout dépend de qui dirige l'Iran ou bien de, entre guillemets, dérapage grave de finances dans des pays qui sont pas les nôtres, etc. Et donc on a envie de retrouver une zone d'autonomie. On a envie de retrouver une zone dans laquelle le destin, l'avenir dépend de nous et que de nous.
Je vois l'exemple de Vence, par exemple, qui est pas loin d'ailleurs aussi. Ils ont fait passer leur PLU, qui est quand même une des clés avec les fameux Scott. On pourrait y revenir aussi sur une autre émission. Ils sont passés de 13 hectares. Ils sont passés de 13 hectares classés agricoles à 110 hectares aussi aujourd'hui. Donc là aussi, c'était une véritable volonté. Frédéric Danvé, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le modèle des villes médiévales qu'on est en train de retrouver ?
Complètement. Et c'est ce que notre ami Askeri est en train de faire. Derrière, le fait d'installer des agriculteurs de grâce à une réserve foncière, c'est courageux ça, d'installer des agriculteurs pour produire mieux. Il y a aussi l'entretien du sol avec une agriculture moins agressive. Et l'entretien du sol dans la zone où se trouve Montsartou, ça entretient le cycle de l'eau, ça évite le ruissellement, ça fait des puits de carbone. Et tout ça au bénéfice des villes qui sont en contrebas, Grasse et Cannes. Et ça illustre, oui, la structure médiévale des villes, c'est-à-dire qu'on a des villes centrales qui sont alimentées, donc qui sont autonomisées par leurs campagnes et avec lesquelles ils signent d'une certaine façon des contrats. Et quand on regarde la politique de l'eau avec les agences de bassin, la gestion intégrée, c'est un peu vers ça qu'on va. Donc, c'est pas passéiste de dire que ça ressemble un peu à ce qu'était la structure urbaine de la société médiévale. Non, moi, ça me réjouit parce que ça introduit quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, c'est l'imaginaire. Voilà, les villes nouvelles doivent être excitantes, on doit avoir envie d'y vivre et surtout, ces villes qu'on est en train de repenser doivent s'inscrire dans le temps. Voilà, ça doit s'inscrire dans le temps d'une ville.
Alors, vous l'avez compris, la ville éco, l'éco des villes, on y reviendra. Et message tout à fait passé, on en avait déjà parlé, mais davantage parler de ville, parce que c'est quand même là, le rappel hein, aussi, où beaucoup de choses donc, se passent. Regard sur la ville durable à la Mogar, Jean-Pierre Cuisinier aux éditions du CSTB. Quelle France en 2030 aux éditions Armand Collin de Frédéric Danhé. Les pionniers de la ville durable de Ruth Stégazy aux éditions Autrement. Et puis, on se retrouvera, nous, la semaine prochaine, le 25 décembre. Mais oui, mais je sera en direct avec vous. Mais comme le 1er janvier, on y sera. Oui, tout à fait. Merci à tous. Merci à Sophie Moreno, Patrick Henry, à la technique, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour avec son lien aussi très intéressant, l'environnement en direct, donc de beaucoup d'informations. Et puis, la Tulu, mon petit loup, vous le savez, à la ville comme à la campagne, partout. C'est à 19h54 le dimanche après les petits bateaux. Possibilité pour vous d'enregistrer cette émission pendant une semaine, donc de la podcast et de la réécouter pendant 4 semaines. Dans quelques instants, ce seront donc les liaisons heureuses avec Colombe Schneck. Ne glissez pas, restez avec nous, ne prenez pas froid s'il vous plaît. Voilà, et vous l'avez compris, sur France Inter, il est 15h, bon week-end.